Vous écoutez On lit pour vous.
Facebook attire les abonnés, mais pas la confiance. Un texte de Karim Benessaye, paru le 5 septembre 2024 dans la presse. Alors que 84% des Canadiens ont un compte sur Facebook, une proportion record, ils sont à peine 39% à avoir confiance dans le contenu des médias sociaux. Et si 4 Canadiens sur 10 suivent des influenceurs, ils sont près du double à accorder leur confiance à des sources d'information traditionnelles comme la radio et les journaux. Ces apparents paradoxes sont légion dans l'étude DGTL 2025 qu'a dévoilée le 4 décembre 2024 la firme Léger. Basée sur un sondage web, réalisé auprès de 4004 répondants en août 2024, l'étude permet d'abord de confirmer la domination totale de Meta, propriétaire des plateformes Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, sur le web. Malgré son boycottage des nouvelles des médias depuis le 1er août 2023, Facebook a plus d'abonnés que jamais au Canada, 84% des répondants affirmant y détenir un compte. En 2023, cette proportion était de 82%. Instagram est par ailleurs passé en un an de 59% à 64% d'abonnés parmi les répondants et WhatsApp a connu une augmentation similaire de 47% à 51%. X en baisse. Le seul concurrent notable de Meta au Canada est YouTube, appartenant à Google et auquel 68% des Canadiens sont abonnés. Toutefois, chez les 16-24 ans, YouTube surclasse Facebook. 93% des répondants de ce groupe d'âge y ont ouvert un compte contre 77% pour Facebook. Faites à noter, un seul réseau social a connu une baisse en points de pourcentage depuis la première étude DGTL publiée en 2023, Twitter, devenu X. Le réseau racheté par Elon Musk était fréquenté en 2023 par 37% des Canadiens, tous âges confondus. Cette proportion a chuté à 34% cette année. Le rival créé par Meta, Threads, a connu une hausse notable, passant en un an de 11 à 14% de taux de pénétration. La nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, Blue Sky, n'apparaît toutefois pas dans le sondage. Celui-ci a été réalisé avant l'élection présidentielle américaine qui a engendré une explosion d'inscriptions à Blue Sky. Statistique encore plus significative, 63% des répondants affirment utiliser Facebook au moins une fois par jour. Instagram, 43%, YouTube, 40% et TikTok, 20% sont ensuite les réseaux sociaux les plus visités quotidiennement. Encore une fois, le portrait est sensiblement différent selon le groupe d'âge. Les 16-24 ans ne sont que 42% à aller tous les jours sur Facebook, leur réseau préféré au quotidien étant Instagram avec 74%, YouTube 62%, Snapchat 57% et TikTok 49% sont tous plus populaires que Facebook dans cette tranche d'âge. Question de confiance. Que font les répondants sur les réseaux sociaux? Tout dépend du réseau en question et de l'âge de l'abonné. Sur Facebook, l'interaction avec le contenu est la motivation principale de 42% des 45 ans et plus. Chez les 25 à 45 ans, 40% affirment que leur activité la plus fréquente y est vendre ou acheter. Sur YouTube, l'écoute de musique est l'activité la plus fréquente de 38% des utilisateurs, suivie du visionnement de tutoriels, 36%, et du visionnement de vidéos pour se divertir. Par ailleurs, 41% des répondants affirment suivre des influenceurs ou des créateurs de contenu sur les médias sociaux. Dans 49% des cas, ces influenceurs donnent des conseils pour la cuisine et l'alimentation, la catégorie la plus populaire. Confiance dans les radios. La confiance accordée à ces influenceurs a baissé en un an. Si 68% des Canadiens sondés trouvaient leur contenu crédible l'an dernier, ils sont 63% cette année à être de cet avis. Sur cette question, le sondage contient d'excellentes nouvelles pour les médias dits « traditionnels ». Quand on demande aux répondants s'ils font totalement ou assez confiance à des sources de contenu, la radio traditionnelle arrive en tête avec 80% de réponses positives. Les journaux papier arrivent en deuxième position, avec 79%, suivi des sites web de nouvelles, 76%, de la télévision, 75%, et des journaux numériques, 72%. Les médias sociaux traînent loin derrière, en dernière position avec 39%. Bien que largement utilisés, les médias sociaux bénéficient de peu de confiance, renforçant leur rôle de divertissement plutôt que de source d'information, résume-t-on dans l'étude. C'était « Facebook attire les abonnés, mais pas la confiance », un texte de Karim Benessaye, paru le 5 septembre 2024 dans la presse.
Des voitures électriques plus lourdes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Une lectrice, Ginette Leblanc, pose cette question. Est-ce que les voitures électriques, qui sont plus lourdes, endommagent davantage la chaussée? Les voitures électriques n'abîmeront pas beaucoup plus l'ensemble des routes, puisque les camions causent de 90 % à 95 % des dommages. Mais dans certaines rues résidentielles peu fréquentées, elles pourraient faire une différence. Les voitures électriques causent effectivement plus de dégâts, mais toujours beaucoup moins qu'un poids lourd, résume Alan Carter, professeur de génie civil à l'École de technologie supérieure, ETS. Pour les grosses routes, poursuit-il, ça ne fait pas de différence. Par contre, il y a des routes municipales à trafic faible où il n'y a pas de poids lourd qui circule. Dans ce cas, ça va raccourcir la durée de vie des chaussées. Monsieur Carter donne l'exemple d'une Chevrolet Bolt, une voiture électrique qui pèse 1670 kg, et d'une Toyota Corolla, une voiture à essence qui pèse 1285 kg. Cette différence de poids de 30 % donne un coefficient d'agressivité, soit une capacité d'endommager la chaussée 2,8 fois plus grande, 180 % à la Bolt. Sur la durée de vie d'une chaussée, ça pourrait avoir un effet, affirme M. Carter. L'impact du poids d'un véhicule, calculé par essieu, est beaucoup plus grand que la simple différence de poids. Un poids lourd, avec la charge maximale permise de 9000 kg sur l'essieu avant, causera 6500 fois plus de dommages qu'une camionnette F-150 avec 1000 kg par essieu, explique M. Carter. Ainsi, pour une rue résidentielle, dans laquelle les camions représenteraient un passage sur 1000, ils causeraient 87 % des dommages, contre 13 % pour les voitures. On est plus inquiet des camions électriques à cause de leur poids, mais aussi à cause de la possibilité qu'ils se déplacent en convoi, comme un gros train routier, signale M. Carter de l'ETS. Un convoi donne moins le temps à la chaussée de relaxer entre les contraintes induites, donc pourrait causer des ornières plus rapidement que les mêmes camions qui ne seraient pas en convoi. Pneus, collisions et bruit. L'impact de l'électrification des transports sur les dommages aux routes n'est pas le seul point d'intérêt des chercheurs. Ils tentent aussi de voir comment le phénomène altérera la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que le risque d'accident. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y aura pas d'effet miraculeux sur les pollutions, explique Jean Schmitt de l'Institut de technologie de Géorgie, Georgia Tech, qui a publié une étude sur le sujet cet automne dans la revue savante PNAS. Passé une certaine vitesse, dit-il, le bruit d'une voiture est lié à son interaction avec la chaussée et non à son moteur. Le bruit ne devrait donc pas diminuer. Et environ le quart de la pollution d'une voiture, pour ce qui est des particules fines, est créée par l'usure des pneus. Il faudra donc déployer des efforts pour diminuer les particules émises durant l'usure des pneus. C'est compliqué par le fait que les voitures électriques sont puissantes, indique Ray Galvin de l'Université de Cambridge, qui a publié une étude sur le poids des voitures électriques en 2022 dans la revue savante Energy Policy. Les gens ont tendance à utiliser cette puissance. Ça crée plus d'usure des pneus. Et ça sous-estime aussi la demande en recharge de voitures sur le réseau électrique, qui est déjà surchargé par cette nouvelle demande. Du côté des accidents, le surpoids des voitures électriques empirera la gravité des collisions, prévient M. Galvin. En 2023, la grande patronne du Bureau de sécurité des transports des États-Unis, NTSB, a sonné l'alarme sur ce point, donnant l'exemple du Hummer électrique, dont la batterie est presque aussi lourde qu'une Honda Civic à essence. En savoir plus, source NTSB. 1330 kg, poids de la batterie du Hummer électrique. 1400 kg, poids d'une Honda Civic à essence. C'était Des voitures électriques plus lourdes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
C'est une révolution de pouvoir vivre et d'aimer sans crainte de transmettre le VIH. Un texte de Logan Cartier, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Le combat de Bruce Richmond depuis 2012 est de faire connaître le message U égale U, undetectable égale untransmittable, ou indétectable égale intransmissible, au plus grand nombre. U égale U signifie qu'une personne vivante avec le VIH qui est sous traitement et a une charge virale indétectable n'a aucun risque de transmettre le VIH à son partenaire. Je le répète, aucun risque, et l'OMS, qui est présente dans la salle, a confirmé ce risque nul en 2023. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là, beaucoup de recherches incroyables et de participants à ces recherches et beaucoup de plaidoyers, rappelle Bruce Richmond. Ce qui est tellement excitant à propos de U égale U, c'est que je vis avec le VIH depuis plus de 20 ans, et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais aimer, avoir des relations sexuelles, concevoir des enfants sans crainte. Pensez-y, cette peur était présente dans les moments les plus intimes de nos vies, et maintenant U égale U nous libère. C'est tout simplement incroyable. C'est une révolution de pouvoir vivre et d'aimer sans crainte de transmettre le VIH. Pour celui qui a fondé, en 2016, la Prevention Access Campaign, PAC, une initiative basée à New York qui vise à faire la promotion de U égale U dans le monde, ce concept va bien au-delà du bénéfice individuel. C'est un outil de santé publique. La grande nouvelle que je veux partager avec vous, c'est que l'éducation sur U égale U a un impact sur les 3,95, objectif fixé par l'ONU-SIDA. 95% de toutes les PV-VIH dépistées, 95% de toutes les PV-VIH dépistées sous traitement et 95% de toutes les PV-VIH sous traitement en charge virale indétectable. concentrons-nous sur le premier 95, c'est-à-dire de dépistage. Lorsque vous incluez U égale U dans vos campagnes de dépistage ou sur un panneau comme j'en ai vu récemment dans une pharmacie Walgreens aux États-Unis, cela réduit l'anxiété des personnes associées au VIH, ce qui les rend plus susceptibles de se faire dépister. Les données montrent que c'est très important d'inclure cela dans vos outils de sensibilisation au dépistage. Bien sûr, nous voulons que les gens, lorsqu'ils reçoivent un diagnostic, sachent non seulement qu'ils peuvent vivre une vie en bonne santé, mais aussi que s'ils reçoivent un résultat négatif, c'est une bonne nouvelle. Ils peuvent alors commencer à prendre la PrEP, vivre leur vie sans se soucier du VIH. Et si le résultat est positif, ils peuvent commencer un traitement tôt et mener une vie saine sans craindre de transmettre le VIH à quelqu'un, souligne Bruce Richmond. Pour l'activiste, la stratégie de la peur concernant le VIH est contre-productive. Il est crucial de donner de l'espoir aux personnes lors du diagnostic, de les orienter vers les soins pour éviter de sombrer dans le désespoir. Ce que j'ai moi-même vécu en 2003 lorsque j'ai été diagnostiqué séropositif et qu'il n'y avait pas encore le concept de U égale U. C'est pourquoi je suis si passionné par ce sujet. Il y a des jeunes à travers le monde qui reçoivent des informations stigmatisantes et effrayantes sur le VIH. Imaginez recevoir un diagnostic positif de VIH et l'associer à la mort. Nous devons absolument mettre à jour les informations destinées à ces jeunes. C'est vraiment très important, insiste Bruce Richmond. Pour illustrer son propos, Bruce Richmond cite une récente campagne de Grindr sur U égale U. Il y a un excellent exemple qui vient de se produire. Grindr a diffusé le message U égale U à 13 millions d'utilisateurs lors de la journée « Zéro stigmatisation » pour réduire la stigmatisation et encourager le dépistage. Et l'appli a répété ce geste à quelques occasions par la suite. Je tiens à leur adresser un grand bravo pour cela. Et l'activiste de conclure sur une note d'espoir, « La leçon à retenir est que U égale U est une réalité. Croyez-moi, c'est un nouveau jour pour les personnes vivantes avec le VIH et pour mettre fin à l'épidémie. Nous pouvons tous y participer en partageant ce message U égale U. » C'était « C'est une révolution de pouvoir vivre et d'aimer sans crainte de transmettre le VIH. » Un texte de Logan Cartier, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
En Mauricie, les airs protégés de la discorde. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. Plusieurs projets d'airs protégés proposés par des citoyens ont été bloqués par des élus locaux de la Mauricie, a appris Le Devoir. Les partisans de ces projets présentés à la demande du gouvernement Legault se sentent floués, tandis que des élus ne cachent pas leur exaspération face à l'appel à projet lancé par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Dans la MRC de Mackinac, située au nord de Trois-Rivières, le collectif Ensemble vers la réserve de biodiversité Mackinac avait élaboré, arguments scientifiques à l'appui, un projet de protection d'un territoire de 200 km². Ce projet devait permettre de préserver des milieux naturels importants pour des espèces menacées et des zones forestières épargnées par l'industrie, mais aussi un territoire qui créait une connectivité avec d'autres écosystèmes protégés de la région. Qui plus est, le projet avait reçu plusieurs appuis dans la région et la page Facebook du groupe compte plus de 1000 membres. La MRC de Mackinac a toutefois refusé d'accorder un appui à l'analyse du projet. Cette étape, qui ne signifie pas un appui formel au projet présenté, est un passage obligatoire pour les citoyens qui veulent que leur projet d'aire protégée soit considéré pour les étapes suivantes par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP. Les MRC ont jusqu'au 10 janvier 2025 pour se prononcer. C'est frustrant, laisse tomber Michel Trudel d'ensemble vers la réserve de biodiversité Mikinak, en insistant sur les efforts soutenus et bénévoles qui ont été nécessaires pour élaborer le projet, en s'appuyant sur les critères élaborés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, la référence mondiale dans le domaine des aires protégées. Ce projet n'est toutefois pas le seul à avoir essuyé le refus d'élus locaux en Mauricie. Il n'existe pas de liste officielle disponible des projets présentés par des citoyens et des groupes en réponse à l'appel lancé en juin par le gouvernement Legault, mais selon les données compilées par Le Devoir, au moins 29 projets ont été rejetés dans la région de la Mauricie. La MRC de Mikinak a ainsi refusé 8 des 14 projets soumis. La MRC de Maskinongé a rejeté 5 projets sur 9 et l'agglomération de Latuc a refusé la totalité des 16 projets soumis, et ce, avant même que leur valeur en matière de protection de la nature ne soit analysée par le MELCCFP. À quoi on sert? Géographe et directeur de Relief Mauricien, Éric Proulx dénonce sans détour ces rejets. On néglige le bien collectif et il y a une rupture de la confiance très dommageable dans la région. On a mis des centaines d'heures pour travailler sur ces projets de façon bénévole et en moins de 30 minutes, les projets sont rejetés. Mais il n'y a pas d'expertise dans les MRC pour analyser les projets et les impacts potentiels, fait-il valoir. Ça provoque du cynisme envers les institutions. À quoi on sert? Le ministère a demandé la résolution pour une question d'acceptabilité sociale. Mais si des citoyens et des organismes se mobilisent, ça démontre une acceptabilité sociale, ajoute M. Proulx. Il redoute d'ailleurs la suite des choses puisque les territoires que les citoyens voulaient protéger pourront être soumis à des projets de développement industriel, comme des coupes forestières et l'acquisition de permis d'exploration minière. Des coupes seraient prévues notamment dans le secteur du projet de réserve de biodiversité Mikinak. À Latuc, où l'usine de pâte et papier West Rock est un employeur important, on se dit surtout exaspéré par la formule de « l'appel à projet » du ministre Charette. Les MRC ne sont pas outillés pour se positionner pour savoir quels sont les meilleurs projets. Il y a des experts au ministère de l'Environnement qui sont en mesure de faire cette analyse. Pourquoi est-ce qu'on nous demande une résolution d'appui à ces projets? Le gouvernement nous a donné une patate chaude, affirme le chef du service de foresterie et d'aménagement du territoire, Patrice Bergeron. Même son de cloche dans la MRC de Maskinongé. C'est très mal parti, résume le préfet Paul Carbonneau. L'idée de protéger la nature est une bonne idée. Personne n'est contre la vertu, nuance-t-il, tout en insistant sur le besoin de développer les projets en partant de la base, soit les communautés locales. Cette étape de consultation est prévue dans le processus de l'appel à projet, explique le MELCCFP, mais une fois que la proposition aura été jugée recevable et qu'elle aura fait l'objet d'une analyse interministérielle préliminaire, le projet sera alors présenté lors de tables de concertation régionale. Cette étape impliquera les acteurs régionaux concernés par l'aménagement du territoire. Des délais d'un an sont prévus pour la détermination de façon consensuelle des territoires à recommander au gouvernement pour la création d'aires protégées. Les projets rejetés d'emblée par les MRC ne se rendront pas à ces étapes. Vous écoutez En Mauricie, les aires protégées de la discorde, un texte d'Alexandre Shields paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. Refus d'aires protégées. L'agglomération de Latuc se défend toutefois de vouloir fermer la porte à la protection du territoire. M. Bergeron insiste sur la recherche d'un équilibre entre protection du territoire et développement économique, en ajoutant que près de 25 % du territoire ferait déjà l'objet de mesures de protection. La ville de Latuc a d'ailleurs répété cet argument dans une lettre envoyée au ministre Benoît Charette, dont Le Devoir a obtenu copie. La ville de Latuc n'a pas l'intention de dépasser l'objectif de 30 % fixé par le gouvernement. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas autoriser l'analyse de nouvelles aires protégées sur notre territoire sans avoir une vision claire de l'ensemble des aires protégées actuelles et futures, y compris celles en négociation avec la nation Atikamekw, peut-on lire dans cette lettre. Selon les données officielles gouvernementales, le taux de protection de ce territoire de près de 30 000 km², 60 fois l'île de Montréal, pour une population de 15 000 habitants, avoisine les 8 % et non 25 %. Médiatrice en environnement spécialisée dans l'évaluation des répercussions sociales et de l'acceptabilité sociale des grands projets, Marie-Ève Maillé s'explique mal la décision du gouvernement Legault de s'en remettre au MRC pour franchir la première étape en vue de la création de nouvelles aires protégées. C'est une bonne façon de confiner la grogne à une échelle régionale, et le gouvernement peut se laver les mains en disant qu'il était pour un projet, mais que les élus locaux ont vu les choses autrement, fait-elle valoir. Elle estime que les MRC ont aussi leur tort. C'est choquant de constater que les MRC font preuve de beaucoup plus d'ouverture lorsqu'elles sont approchées par les promoteurs de projets de développement économique. Et quand il y a un projet de développement et qu'il y a des opposants, on reproche souvent aux opposants de ne rien proposer en échange. Mais cette fois, les gens ont proposé des projets pour le territoire et je ne vois pas comment, d'emblée, on décide de ne pas les prendre en considération. Je ne vois pas comment on peut justifier cette décision politique. Le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charette, défend pour sa part la formule retenue par le gouvernement. Nous avons mis en place ce processus pour l'évaluation des projets d'aires protégées, notamment à la demande des MRC et des municipalités du Québec. Cette façon de procéder nous permet notamment de nous assurer de l'acceptabilité sociale des projets au sein de la communauté avant de passer aux étapes subséquentes. Rappelons que les MRC sont également responsables de l'aménagement de leur territoire, explique son cabinet dans une réponse écrite. La MRC de la Haute-Gaspésie a rejeté en bloc 20 projets d'aires protégées soumis par des citoyens et des groupes en réponse à un appel lancé par le gouvernement. C'était, en Mauricie, les aires protégées de la Discorde.